Les paraboles sont inépuisables, selon les époques, selon l'humeur qui est la nôtre d'ailleurs, du jour, selon l'actualité, on va accrocher sur tel élément et puis passer sur tel autre. C'est ainsi. C'est d'ailleurs ce qui fait la force, la beauté du texte biblique. On a beau y entrer par la même porte, on y découvre toujours de nouveaux sentiers. J'espère donc que l'itinéraire que je vous invite à suivre ce matin vous apportera lumière et force dans votre marche. Peut-être parce que les temps sont à l'incertitude. La première chose qui accroche mon œil à la lecture de cette parabole, c'est l'absence du propriétaire. Il représente Dieu, sans aucun doute. Et Dieu, ici, est un abonné absent. Dans la parabole qui sera juste deux chapitres plus loin, la parabole dite des talents, après avoir remis des sommes d'argent, ben, pareil, le proprio s'en va. Même verbe d'ailleurs que le verbe employé ici. C'est une chose qui est dérangeante pour nous qui avons besoin de présence, de sécurité. Si je crois en Dieu, c'est pour développer avec lui une relation, trouver la paix de mon cœur. Or, l'absence rend difficile, et pour certains d'entre nous même peut-être, rend inquiétante la relation. Et on peut se demander comment concilier ces paroles de l'absence avec des paroles de la pleine présence, comme celle que Jésus, dans ce même évangile, va formuler à la fin. Je suis avec vous, vous la connaissez par cœur, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. La première chose que je voudrais dire, c'est que cette certitude que Dieu ne nous abandonne pas doit être au cœur de notre foi. Dieu ne nous abandonne jamais. Absence ne signifie pas abandon. Ce n'est pas parce que nous avons le sentiment que Dieu est absent quand il arrive, par exemple, des épreuves, des choses peut-être même épouvantables dans nos vies. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il est absent. Souvent, le problème, c'est pas tellement qu'il s'éloigne, mais que nous n'avons pas suffisamment de foi, oui, pour discerner sa présence. C'est pas tout à fait la même chose. Et puis il y a aussi nos façons d'être, nos structures émotionnelles, nos manières de croire. Pour certaines personnes, prier, c'est quelque chose de très naturel et nous avons vécu ça il y a quelques instants, ensemble. Il m'est arrivé de parler avec des personnes qui avaient cette aptitude à parler avec Dieu tout le temps, comme quelque chose de tellement naturel. J'ai l'impression, les voyant, que Dieu est tout le temps là, non pas absent, mais tout le temps présent. Alors parler dans la voiture, au travail, au supermarché, partout. Et cette façon de vivre et d'habiter la foi, de toute évidence, les équilibre, les renforce, les fortifie, oui. Pour d'autres, qui ne sont pas moins croyants, il en va autrement, ils n'ont pas cette possibilité de ressentir émotionnellement la présence de Dieu. Ils ont bien du mal à dire comment Dieu parle et agit dans leur vie. Ils ne disent pas qu'il n'agit pas, hein. Ils ont du mal à dire comment il agit. Ils n'entendent rien quand ils prient. Et du coup, ils prient peu. Ils vivent l'absence de Dieu plutôt dans le silence, l'attente et aussi souvent dans l'action. Le service concret, efficace, silencieux, dans l'Église ou dans le monde. Et ne semblent pas du tout souffrir de cette situation. Mais voilà, c'est peut-être la première bonne nouvelle de cette parabole. L'absence de Dieu est vécue de manière fort différente dans l'Église par les uns et par les autres. Cherchons pas à imposer un modèle. Une chose est sûre, il y a de la place pour tous dans la vigne. Nous sommes tous embauchés, tous envoyés, les spirituels autant que les rationnels, les priants autant que les silencieux, tous ont un même mandat, prendre soin de la vigne. C'est ce que nous dit cette parabole. Qu'on soit de nature expressive ou secrète, qu'on soit déclaratif ou plutôt taciturne, la vocation nous est commune à tous. Elle nous est adressée. Il faut œuvrer dans ce monde, autour de nous, pour plus de justice, plus de paix, créer plus de liens fraternels entre les hommes. Si Dieu s'absente, c'est aussi pédagogique. C'est pour que nous nous apprenions peu à peu à prendre notre place et à agir en femmes et hommes responsables. Et cette responsabilité, eh bien, elle consiste à aimer notre prochain, c'est-à-dire à lui témoigner en parole et en acte l'amour du Christ. Celui qui a été lu tout à l'heure dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 2. Ce Christ qui se vide et qui se rend proche de chacun. Peut-être que certains chrétiens attendent trop de Dieu. Ils demandent, dans leurs prières, des miracles, des signes, des solutions à leurs problèmes, jusqu'à, quelquefois, une place de parking quand on est en retard au boulot. Mais si Dieu s'en va, si Dieu est absent, c'est précisément pour nous permettre de trouver par nous-mêmes des manières de vivre cet amour qu'il nous donne, de vivre cette responsabilité à laquelle il nous appelle. Au lieu de prier pour avoir la place de parking, mets ton réveil un peu plus tôt. Dieu ne vient pas démêler nos sacs de nœuds. Il nous donne sa parole comme boussole, sa confiance comme force et son Esprit Saint comme conseil intérieur. Puis, quand même, dans cette parabole, ce n'est pas un petit point de détail, il y a du boulot, il y a une vigne à cultiver. Au lieu de nous perdre en état d'âme sur l'absence ou la présence de Dieu dans nos vies, peut-être ferions-nous mieux de nous intéresser un peu plus à cette vigne qui nous est confiée, de nous retrousser les manches pour nous mettre au boulot. Plus l'Église répondra à l'appel de Dieu, concrètement, et moins elle s'exposera aux crises de foi. Plus elle s'engagera dans l'action, dans le service, moins elle s'exposera aux conflits relationnels. Moins elle pensera à elle, et plus elle pensera aux autres. C'est un bien. Voilà le sens de notre vie, produire du fruit et le partager. Et quand Dieu vient visiter les vignerons, remarquez qu'il ne s'intéresse pas du tout à l'organisation de leur travail. Il ne vient pas du tout faire du coaching. Hein. Il ne veut savoir qu'une chose. Est-ce qu'il y a du fruit? Notre monde a tellement besoin de notre engagement pour plus de justice, plus de paix, plus de fraternité entre les hommes. Et Dieu nous demande des comptes ce matin. Il envoie ses prophètes, les uns après les autres, les prophètes de la Bible et puis tous ceux qui ont prêché l'Évangile depuis. Il finit par envoyer son propre fils. Là, quand même, ça devient sérieux. Jésus vient d'entrer à Jérusalem. Il sait que ses jours sont comptés. Il sent les choses se durcir. Il sent l'opposition contre lui monter, elle va bientôt se déchaîner. Et cette parabole nous offre une lecture très originale de la passion du Christ. Nous avons coutume de confesser la foi chrétienne en disant que Jésus vient mourir en sacrifice pour notre salut. Ça paraît une évidence, m'adressant à ce public d'église. Mais dans la parabole, le propriétaire n'envoie pas du tout son fils à la mort. Il l'envoie faire quoi? Parler aux vignerons. Que font-ils de leur vie? Comment répondent-ils ensemble à l'appel de Dieu? Font-ils face à leurs responsabilités? Y a-t-il du fruit? Où en sont-ils avec l'urgence de la production? C'est-à-dire du témoignage chrétien dans le monde, de l'amour de Dieu au monde. Où en sont-ils? Il n'envoie pas du tout son fils en sacrifice, mais en visite auprès des hommes pour qu'ils reçoivent son évangile. Et d'ailleurs, il dit, au moins, ils respecteront mon fils. Donc on voit bien l'intention là du père, pas envoyer son fils au casse-pipe, mais au contraire, convaincre les vignerons. Dans la parabole, la mort du fils apparaît, dans la parabole que nous venons de lire, comme un échec, comme un scandale, pas comme un fait programmé par le propriétaire. La mort du Christ sur la croix demeure celle d'un innocent. Elle reste un scandale absolu. Et c'est parce que Dieu est le Dieu de la grâce et du salut qu'il va créer une nouvelle histoire sur ce champ de ruines à partir de cet échec. Il va faire en sorte que la mort désastreuse de son fils devienne un chemin de vie, de résurrection et de salut pour tous les hommes. Et à la question que Jésus pose dans la parabole, après la parabole, que fera le propriétaire des vignerons homicides? Il s'adresse là à des chefs religieux, hein, à Jérusalem. On est près du temple. Ces derniers répondent avec empressement et conviction, et je traduis littéralement là, il fera méchamment périr les méchants. C'est ce qu'il répond. Ce n'est pas Jésus qui prononce ce jugement-là, hein. Ce sont les chefs religieux. Jésus, au contraire, va opposer à ce jugement une autre vision. Qu'il puise lui-même dans sa foi biblique. Et il cite le psaume 118. Il parle d'une pierre rejetée par les hommes, ultime réponse de Dieu à la méchanceté des hommes. Mon œuvre pour vous, c'est une merveille, dit Dieu dans ce psaume 118. Voilà la réponse de Dieu. Mon œuvre pour vous, c'est une merveille. Ma rétribution, c'est le don de ce que j'ai de plus cher, de plus précieux. Cette parole vient rompre le cercle infernal de la vengeance, de la violence relationnelle, de la rétribution et des comptes au millimètre. Elle fait déborder la grâce là où on ne l'attend plus, là où il n'y a plus que jugement, où il n'y a plus que mort. Et pour terminer, j'aimerais évoquer très rapidement, un survol rapide, des trois éléments qui constituent, qui fabriquent le vignoble. Les vignes du pape Clément et de la mission Aubryon, qui font la gloire de Pessac, image à merveille, je m'y promène, pas dedans, hein, mais au bord, cette perfection de la vigne de l'Éternel. Non seulement le propriétaire offre, par son absence, la gérance de sa vigne aux vignerons, mais il leur laisse trois choses essentielles pour assurer leur boulot. La haie, la tour et le pressoir. On pourrait faire un film, hein? La haie, la tour et le pressoir. La haie, c'est évident, qu'est-ce qu'elle sert à quoi? Ben, elle protège. Elle protège contre les maraudeurs, les visiteurs mal intentionnés. Ici, quand même, dans le secteur, la grappe coûte cher, hein. Et donc, vous regarderez que les barrières sont, c'est pas de simples petits fils, hein. Ce sont quand même des palissades. Oui, ben c'est une image de la foi, en fait, hein, cette haie, cette protection qu'est la foi, est un rempart contre le désespoir, contre le sentiment de l'absurde. Qui angoisse tant de gens aujourd'hui. Nous sommes invités à nous mettre là, à l'abri de cette haie, à mettre notre espérance en Dieu. Et puis il y a la tour. Elle aussi, elle joue un rôle essentiel. La tour, elle sert à quoi? Elle sert à voir venir, elle sert à prévenir. Elle permet l'exercice d'un discernement juste et éclairant. La haie, elle nous élève au moment où on y voit plus clair. Elle nous élève au-dessus des routines du quotidien, au-dessus des jugements hâtifs et ou définitifs qu'on serait tenté d'avoir sur les choses et sur les gens. Cette tour, est-ce la parole de l'esprit? Est-ce la parole? Est-ce l'esprit? Sans doute les deux, compagnons de route pour nous. Mais quand même, attention, ne pas rester coincé en haut de votre tour. L'Église n'a pas vocation à devenir une tour d'ivoire hein, qui va proclamer ses vérités du haut de la chair, comme je suis en train de faire maintenant, sans prendre jamais le risque de la rencontre avec qui que ce soit. La vigne nous attend, le monde nous attend, et le monde a soif du fruit de la vigne. Et c'est le pressoir, pour finir, qui représente l'action finale des vendanges. Dans ce pressoir, on y jette pêle-mêle les grappes, et le pressoir va séparer le jus de tout le reste. La rafle, le pédoncule, le marc, la peau du grain, je me suis renseigné. Hein. Il faut cette séparation en nous du bien et du mal. Cette conscience vive que nous pouvons acquérir sur la tour, il faut qu'elle puisse être claire, forte en nous, entre ce qui est bon et ce qui est mal. Je ne dis pas que nous allons atteindre ici-bas le degré idéal de sainteté. Le bien et le mal cohabiteront en nous jusqu'à notre dernier souffle, comme l'ivraie et le bon grain dans un autre champ. Mais cette cohabitation ne doit pas, du bien et du mal en nous, ne doit pas devenir synonyme de reddition, d'abdication. Au contraire, nous devons combattre, comme le pressoir combat, pour séparer entre ce qui est désirable et ce qui est indésirable. Cela ne fait pas de la vie chrétienne une vie sans désir. Au contraire, il s'agit quand même de vin, hein, ne l'oublions pas, et donc de plaisir. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais... Toute décision difficile dans nos vies doit faire passer notre vie à l'épreuve du pressoir. Il y a des choses à abandonner pour toujours. Mais le jus délicieux qui va sortir du pressoir, c'est quoi? C'est plus de justice, plus de vérité dans nos relations, plus d'amour partagé, plus de soins. Nous le savons, c'est l'amour qui réjouit le cœur de l'homme. Le vin aussi, comme s'il en était un peu le symbole de cet amour. À chacun donc de découvrir maintenant sa priorité. Je vous laisse avec cette parabole. Avez-vous besoin d'une pause à l'ombre de la haie pour souffler un peu dans votre vie? Avez-vous besoin d'un passage stratégique au sommet de la tour pour affiner un peu la vision? Avez-vous besoin d'un stage au pressoir pour alléger un peu vos vies de ce qui ne sert à rien, qui plombe, qui emprisonne vos existences? Que Dieu aide maintenant chacun à répondre à ces questions. Amen.